Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h47, c'est le petit déjeuner de l'actu dans quelques instants. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Eric Revel, on reviendra sur les lignes aériennes, hein, les voitures diesel, Veolia et vos actus, vous qui vous intéressez, 0826-300-300. En attendant, c'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, et du côté de Sud-Ouest, eh bien, on a les yeux tournés vers London.
Ben oui, le Royaume-Uni, effectivement, avec ce cri du cœur en une, ça y est, c'est ouvert. Les Britanniques ont en effet retrouvé hier une partie de leur liberté de mouvement avec des terrasses de nouveau ouverte, confinement long et rigoureux, couplé à une vaccination massive, c'est la recette de ces pays qui commencent maintenant à déconfiner. De quoi interroger sur la stratégie française, en tout cas selon Sud-Ouest, même si le Royaume-Uni est le pays européen qui compte le plus de morts du Covid depuis
oui,
le début de la crise.
C'est hein. Ça, mais et c'était à surveiller sur la suite hein, quand même.
Bien, quoi, sûr, bien sûr, tout à fait.
Parce que bon, hier soir, il y avait des scènes de joie qu'on a écoutées avec vous là, tout à l'heure, Benjamin. C'est à suivre. Hein. Mmh. Une question aussi à la une de Midi Libre. Oui, nouveaux Héraultais, qui sont-ils?
Bah oui, puisque chaque année, le département accueille 15 000 habitants supplémentaires, une hausse annuelle d'un peu plus de 1,3%, ce qui fait de l'Hérault bah, l'un des départements les plus attractifs de France, avec notamment la Gironde, la Haute-Garonne ou encore la Loire-Atlantique et la Haute-Savoie. Du côté du populaire du centre, cette fois-ci, eh bien, ce sont des petits bruits qui font de grands bruits. Que nous soyons ruraux ou urbains, nous sommes tous confrontés à des bruits qui, au mieux, nous exaspèrent, au pire, bien, nuisent à notre santé. Des ORL expliquent les dommages qui peuvent être liés à cette pollution sonore. On apprend également que les institutions cherchent de plus en plus à prévenir ces effets parasites avec des aménagements et des réglementations, c'est-à-dire donc dans le populaire du centre.
Oui, et il y a des opposants à un projet de méthanisateur, hein. Méthaniseur. Sommet de payer 1,5 million d'euros chacun, ça c'est à la une de l'éclair des Pyrénées.
Oui, ça se passe du côté près de Pau, la société Metagri qui porte le projet s'habille sur un supposé manque à gagner provoqué par 5 longues années de procédures judiciaires. Elle demande donc à ses opposants de lui indemniser carrément cette somme colossale. Des associations environnementales des environs apportent donc leur soutien à ses opposants qui ont reçu donc ce courrier de Metagri.
Oui, et puis en football, un jardin à réenchanter. Ça, c'est à la une de l'équipe en ce jour de quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern de Munich.
Oui, vainqueur 3-2 à Munich. Le Paris Saint-Germain va devoir tenir à domicile sur une pelouse où le club a trop souvent été mis en difficulté cette saison. Devenir grand, ça c'est le titre du Parisien aujourd'hui en France, puisqu'en cas de qualification ce soir pour les demi-finales face aux tenants du titre, les Parisiens entreraient enfin, peut-être, dans ce cercle des géants du foot européen. En tout cas, c'est ce que dit le Parisien aujourd'hui en France.
Oui, merci. Nous poursuivons avec Philippe Rioux, éditorialiste à La Dépêche du Midi, qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bon. Oui, Philippe.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Philippe Rioux, donc de La Dépêche du Midi. En une, votre sujet, c'est les conséquences notamment des déprogrammations, c'est ça, d'opérations et les témoignages et l'interview du cancérologue, d'Axel Kahn, qui est président de la Ligue contre le cancer, hein, c'est ça où j'ai un petit
ça,
doute.
Exactement, oui. C'est la Ligue contre le cancer. Effectivement, nous revenons sur ce sujet, les déprogrammations des opérations dites non urgentes dans les hôpitaux. Alors, comme lors des deux premières vagues de l'épidémie, ce sont des opérations qui sont reportées depuis quelques semaines pour faire face à l'afflux des malades Covid de la troisième vague. Et c'est des décisions qui sont prises en raison du manque de lits et de personnel. Alors à Paris, par exemple, où les transferts de malades vers d'autres régions n'ont pas suffi à désengorger les hôpitaux, c'est plus de 80% des opérations non urgentes qui sont déprogrammées. Alors évidemment, le problème, c'est que derrière ces opérations, il y a des patients qui attendent, hein, qui vivent une vraie détresse, comme nous l'ont raconté plusieurs témoins. Alors on a interrogé un jeune homme de 24 ans qui s'était blessé au ligament du genou, mais qui ne peut pas être opéré, une autre personne qui est atteinte d'un cancer du côlon et qui n'arrive pas à avoir un suivi médical post-opératoire. Ah oui. Et puis il y a aussi des retards qui impactent des grèves rénales, par exemple, qui ont diminué de 25% sur l'année. Alors depuis un an, il y a eu quand même 1,4 million de séjours en médecine et 900 000 en chirurgie qui ont été déprogrammés, donc c'est pas sans conséquence sur la santé des Français. Alors au-delà de ces opérations, bien sûr, c'est le manque de suivi des patients, de diagnostic qui commence à inquiéter les professionnels et les associations de patients, et notamment pour la cancérologie. Alors vous le disiez, on a interrogé le professeur Axel Kahn qui est président de la Ligue contre le cancer et qui lui nous explique que faute d'avoir des diagnostics suffisamment réalisés, dans les 5-6 ans qui viennent, les retards pourraient entraîner la mort de 13 500 personnes supplémentaires qui n'auraient pas été, dont notre cancer n'aurait pas été diagnostiqué à temps.
Oui, c'est ça, parce qu'évidemment, il y a des opérations qui sont déprogrammées, qui sont reportées. Voilà. Et il y a même des gens qui, du coup, ne vont pas à l'hôpital parce que, pour des visites, etc., parce qu'ils ont peur également d'attraper à l'hôpital. On sait que c'est un des clusters potentiels, hein. Bien sûr, il peut y avoir, en fait, des transmissions. Ils reportent aussi leurs visites, quoi.
Oui, absolument. C'est vrai que l'hôpital, il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'il y a une possibilité de contamination. Donc c'est vrai que quand on est déjà malade, ça peut faire peur. Et ce que nous dit Axel Kahn, c'est effectivement qu'il y a des gens qui ne vont pas de même à l'hôpital. Donc ça fait également là aussi des retards qui auront forcément des conséquences plus tard.
Oui, absolument. Merci Philippe Rioux, éditorialiste à la Dépêche du Midi. Je rappelle que le dernier chiffre montre qu'il y a une tension qui continue de monter dans les hôpitaux avec 5916 malades du Covid actuellement en soins intensifs. Et il y a eu 385 morts supplémentaires recensées ces dernières 24 heures du Covid. On est à la barre des 99 000 décès. On va arriver dans les jours qui viennent aux 100 000 probablement. On poursuit avec le petit déjeuner
de l'actu avec Alexis Poulain, Éric Revel, Elisabeth Lévy, avec trois sujets ce matin. Est-ce qu'il faut réduire les vols de moins de 2h30, les vols intérieurs au profit du train? Le mariage Veolia Suez, est-ce que ça aura un impact sur la facture des Français? Est-ce que le renforcement des zones à faible émission en ville, quid du diesel? Voilà, vous voulez nous appeler 0826 300 300, et puis vous avez peut-être aussi des sujets que vous voulez évoquer avec nos éditorialistes du jour.
Oui, absolument. Et on va commencer peut-être alors sur une question d'actualité là ce matin, Alexis Poulain, c'est tombé il y a quelques minutes, c'est sur les élections régionales. Alors finalement, est-ce qu'il faut les maintenir, les reporter?
Il y a une décision qui vient d'être prise. C'était mon édito de ce matin. Il y a une décision. Jean Castex va proposer sans doute cet après-midi le report d'une semaine seulement pour avoir plus de temps pour la vaccination et pour la campagne. En disant voilà, ça va nous laisser une semaine de marge pour dérouler davantage. Donc c'est pas non plus un report.
C'est étonnant comme décision. Éric Revel.
C'est assez étonnant, mais.
Oui, et Elisabeth et Éric.
Oui, d'abord, ce qui était étonnant, c'était la consultation en catimini des maires ce week-end pour connaître leur avis. Alors, vous avez vu le résultat, 56-60% au niveau de la France considérait qu'il fallait laisser les élections régionales au mois de juin. Cette décision de reporter d'une semaine seulement, elle est pas surprenante. Pour moi, c'est toujours le en même temps, c'est-à-dire que on recule pas, on voulait vous.
Ah bah là, c'est vraiment le cas de le dire. Hein, c'est vraiment du en même temps.
Ah bah oui, c'est dû en même temps, mais ça aurait été quand même un vrai problème démocratique, pardon, parce que dès l'instant où le président de la République nous explique qu'à partir de la mi-mai, on peut rouvrir les lieux culturels, les restaurants et les commerces, on voit pas pourquoi, si à la mi-mai on peut faire ça, on n'aurait pas été capable de tenir des élections régionales fin juin. Enfin, c'était complètement incompréhensible. Donc bon, voilà.
Sauf que tout n'est pas ouvert pour l'instant.
Pour moi, c'est tant mieux.
Ouais. C'est pas encore ouvert.
Enfin...
Hein.
Oui, certes, mais tout de même, il y a eu une élection américaine. Il y a eu une élection américaine en pleine pandémie, quand même.
Oui.
Donc, je veux dire, ça aurait été quand même un peu étrange. Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Oui,
on vous entend.
Un peu étrange. Enfin, moi, j'aurais trouvé ça terrible qu'on décale les élections, qu'on reporte les élections. Maintenant, je ne comprends strictement pas cette décision d'une semaine. Je m'associe à l'explication d'Éric. C'est pour montrer qu'on fait quelque chose quand même, qu'on ne fait pas tout à fait tout normalement. Mais je ne comprends rien à cette affaire de semaine. Mais bon, à vrai dire, ça ne va pas
nous... Temps.
Ouais. Oui, c'est même pas en même temps, c'est montrer que malgré tout, on est sur le front sanitaire.
On avait un peu raison quand même.
Oui, c'est ça. Bon, enfin bon, mais cela dit, je crois qu'il y a eu beaucoup d'élections cette année dans d'autres pays, des pays qui étaient touchés par la pandémie. On n'aurait vraiment pas eu l'air malin d'annuler les nôtres.
Ouais.
Et puis après, en plus, il y a un calendrier, si vous voulez, ça va finir par se... si on décale trop les élections, on va cogner sur la présidentielle en plus.
Si on l'avait décalé au mois de septembre, quoi.
Non, mais vous allez voir, peut-être on va Peut-être on va décaler les présidentielles de 5 ans.
Oui. Ah, oui, s'il y a une poursuite de la pandémie. Bah oui, parce que... alors ça, c'est l'un des autres sujets ce matin. Alors, c'est beaucoup plus difficile d'aborder ça ensemble, parce qu'évidemment, on n'est pas des spécialistes de la santé. Mais il y a cette inquiétude qui nous vient du Brésil, ouais. Avec quand même chaque jour plus de 4000 morts et des mutants qui font des ravages. Du coup, se pose une question d'ailleurs, est-ce qu'il faut vraiment couper les liaisons avec l'Amérique latine, avec le Brésil, quoi.
Alors, c'est,
Alexis.
C'est, effectivement, le Brésil est devenu une usine à fabriquer du variant. Hein. Il y a plus de vingtaine de variants, dont un particulièrement agressif hein, qui vient de Belo Horizonte, le variant amazonien. Et il arrive effectivement par avion, mais la souche est déjà présente malheureusement sur le territoire français. Alors, très, très, très minime. L'idée, c'est de ne pas faire de cluster, donc c'est d'arriver à faire les séquences pour voir où est cette souche. La question, elle n'est pas forcément d'empêcher les liaisons aériennes, mais elle est de maîtriser
contrôler.
Le flux. Donc ouais. Contrôler, donc avec une quarantaine. Aujourd'hui en France, c'est simplement un test PCR, et puis vous êtes libre d'aller comme n'importe quel vol. Dans d'autres pays, vous avez 10 jours de quarantaine avec plusieurs tests PCR pour vous assurer que pendant ces 10 jours, vous n'avez pas déclaré la maladie. On voit bien qu'en France, on manque là, encore une fois, de vision à moyen terme, en disant, bon, finalement, la loi, c'est ce que dit M. Djebari, hein, la loi ne nous autorise pas à faire ce genre de choses, si la loi le permet, puisqu'on est dans un cas de force majeure. On ne parle pas là de supprimer des vols, on parle d'organiser l'arrivée sur le territoire national, sachant qu'en plus, il va falloir, en parallèle, organiser une surveillance de
la montée de cette souche. Oui, parce que, bien sûr, parce que vous prenez un vol...
Au Portugal, oui.
Bah oui, c'est ça, vous prenez un vol avec le Portugal ou avec l'Espagne, ou avec l'Allemagne.
Une fois, hein. Encore une fois, à quoi sert l'Europe? Les partenaires européens sont encore en ordre dispersé, il n'y a pas de réponse. Et puis, sur le Brésil, on voit bien que là encore, l'Amérique du Sud, il n'y a pas de réponse coordonnée au niveau mondial. Les voisins du Brésil sont très inquiets parce que justement, est en train de se disséminer cette souche dans toute l'Amérique du Sud et éventuellement dans le monde. L'OMS qui s'inquiète en disant qu'à un an de la survenue de cette pandémie, on est en pleine phase d'explosion.
Là-bas. Elisabeth Lévy, oui, Elisabeth.
Oui, non mais moi je trouve ça complètement délirant. D'abord, je ne vais pas, j'en ai assez qu'on me dise qu'on va attendre l'Europe, le Portugal n'attend pas l'Europe, que je sache. Si vous voulez, c'est une question de protection des citoyens. Donc je trouve ça complètement fou qu'on fasse prévaloir, si vous voulez, en quelque sorte, le droit absolu de rentrer en France quand on y réside. Eh bien non, vous n'avez pas le droit de ramener un virus. Enfin, c'est complètement qu'on n'arrive pas à suspendre des vols. Je ne sais même pas quelle est la raison juridique, j'ai pas trouvé en fait. Mais je crois que c'est cette affaire. Je crois que c'est cette affaire de résident. Moi, je crois qu'on pourrait prendre. On n'a pas besoin d'attendre l'Europe, j'en ai ras-le-bol qu'on me dise il faut attendre l'Europe. Les autres n'attendent pas et nous, on est là comme des benets. Dans un mois, on va dire on a laissé rentrer le variant brésilien et maintenant, il est en train de se développer. Mais c'est complètement irresponsable.
Ouais. Quelle est la justification, en fait ?
Ouais,
on marque une pause et on revient avec vous et vos appels 0826-300-300. Qu'est-ce qui vous fait réagir ce matin? Alors, ces sujets des variants, de la vaccination, des régions qui sont maintenues, mais décalées, mais reportées, mais quand même maintenues, mais elles auront lieu avant l'été. Enfin voilà, c'est un petit peu ce que l'on dit dans les communiqués. Voilà, venant du côté des politiques. Et puis il y a l'autre question aussi autour. Enfin, il y a deux autres questions qui concernent notre environnement en direct et puis l'écologie. Dans un premier temps, c'est Veolia Suez et les conséquences. On va en reparler avec Éric Revel. Et puis aussi la loi climat qui est votée, les logements passoires. Et beaucoup de questions qui se posent. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les 5 millions de logements concernés? Parce que c'est bien de dire, voilà, on va les rénover, mais encore faut-il avoir les pépettes, comme dirait Alexis Poulain dans un instant. Allez, même s'il y aura des aides. On l'a vu ça ce matin avec Barbara Pompiti.
On fait un petit point sur l'actu et on revient tout de suite après.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et on continue avec vos appels, 0826-300-300, Éric Revel, Alexis Poulain, et on va revenir, entre autres, sur ce mariage, Suez-Veolia, Patrick.
Oui, Suez-Veolia, et puis ce que disait à l'instant Barbara Pompili, donc aussi sur les passoires thermiques, l'ensemble, en fait, de la loi. Vous l'avez entendu, Éric Revel, ce matin, il va y avoir quand même beaucoup de mesures très très concrètes et qui vont toucher les Français. Alors plus de voitures trop polluantes, plus de logements passoires, notamment plus de lignes aériennes à 2h30 de en train. Ça risque d'avoir énormément de conséquences économiques. Hein.
Oui, oui. Alors bon, quand on écoute Barbara Pompili, on a l'impression que le coup de baguette magique est arrivé, que du jour au lendemain, tous nos problèmes sont réglés. Non, évidemment que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je vous signale quand même que sur la voiture, par exemple, personne ne sait aujourd'hui si l'électrique existera dans quelques années. Parce qu'en réalité, la plupart des industriels vous disent que l'énergie de demain, c'est l'hydrogène. Ce n'est pas la batterie électrique qu'il faut mettre un temps fou à recycler et qui pose d'autres types de problèmes.
Bon, et même pour recharger, c'est ce qu'elle disait, bien sûr.
Oui, 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 mais une fois que la batterie a fini sa vie de batterie, il faut la recycler, mon cher Patrick. Mmh. Et le recyclage des batteries électriques de voitures, si vous avez des dizaines de millions de voitures qui marchent à l'électrique, ça va pas être un mince sujet. Mmh. Or, quand vous interrogez les industriels, ils vous disent bon. La durée de vie d'une batterie électrique, c'est très très long, mais une fois qu'elle est obsolète, une fois qu'elle est fichue, cette batterie électrique, il faut bien la recycler. Ouais. Alors je dis pas que ça pose évidemment autant de problèmes que le recyclage des traitements de déchets nucléaires,
non,
mais
parce que
ça pose beaucoup de problèmes.
On commence à savoir retraiter en fait ça, mais il y a aussi la production d'électricité, parce que déjà on était sous tension
sûr,
cet
c'est
hiver.
C'est du nucléaire, vous l'avez souligné avec Barbara Pompili, bien sûr. C'est la même chose, je vais vous dire, si on raisonne par l'absolu, de manière un peu négative et un peu caricaturale, ce que je fais de temps en temps, le TGV, oui, c'est formidable le TGV par rapport à l'avion à 2h30, ça pollue moins, ok. Mais avec quoi fonctionne le TGV ? Avec de l'électricité. Mmh. Avec quoi est produite l'électricité en France ? Avec du nucléaire. Mmh. Donc en fait, pour l'instant, on est dans un espèce de cercle vicieux. Alors il y a de l'habillage, il y a de la communication gouvernementale, tout ça est vrai. Le bon signal de Barbara Pompili ce matin, c'est cette loi, et notamment sur la
rénovation.
L'énergie. Oui, exactement. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a plein de dispositifs qui existent déjà et que les gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, vous pouvez avoir des subventions pour refaire l'étanchéité énergétique de votre logement. Une subvention d'État qui s'appelle MaPrimeRénov. MaPrimeRénov, c'est une subvention que vous pouvez obtenir pour faire des travaux chez vous, copropriété ou pas, qui vous permet d'isoler et d'être moins en passoire thermique, comme vous disiez ce matin avec la ministre de l'écologie. Mais il y a plein de possibilités de financement public pour essayer d'avoir un logement qui consomme moins d'énergie et qui est donc plus propre.
Oui. Et Alexis Poulain.
Oui, il y a effectivement beaucoup d'informations à faire sur les possibilités qui existent aujourd'hui. Il y a un effort aussi à faire sur, évidemment, la rénovation, ça c'est évident. Mais le problème, c'est aussi la consommation énergétique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est en train d'entrer dans un temps où on va avoir affaire à des temps difficiles de sous-production, de tension, avec des problèmes de production et d'acheminement d'énergie dans les foyers. Donc soit on revoit la façon dont on consomme l'énergie. C'est déjà le cas. Certaines communes qui coupent l'éclairage public à partir d'une certaine heure, les devantures de vitrines qui s'éteignent. Enfin, un peu de bon sens quoi, sur le fait de ne pas utiliser l'énergie pour rien, enfin du moins à des fins de pas forcément essentielles, puisqu'on est dans l'ère du commerce essentiel. Donc il y a une réflexion plus profonde sur comment on consomme aujourd'hui l'énergie, comment on pourrait effectivement être un peu moins vorace énergétivore, mais le gros de l'énergie consommée, c'est bien sûr pour les activités professionnelles, industrielles, humaines, et on ne peut pas empêcher les gens de vivre. Donc la question est là, elle est compliquée.
Parce que après, on l'accuse et on accuse les verts et les écolos d'aller vers la décroissance, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on recherche de la croissance pour créer de l'emploi. Éric Revel, s'il n'y a pas d'emploi, le pays ne tourne pas et on va. Et déjà, on a beaucoup de difficultés là actuellement. Alors, pour l'avenir, c'est...
Personne ne peut nier que le développement d'une écologie économique sera porteuse d'emplois.
Oui.
Ça, c'est vrai. La transformation écologique dont je parlais tout à l'heure dans le cas de Suez et de Veolia, cette transformation écologique, elle va induire nombre d'emplois nouveaux au service de la protection du climat et de l'environnement. Bon, ça, c'est une bonne chose. Mais comme à chaque fois, quand on est entre deux révolutions industrielles, quand on est entre les deux, ben, on est en train de perdre les emplois de la précédent, du monde précédent,
ouais.
Et on n'est pas encore en train de récupérer ceux du monde d'après. On est dans cette transformation écologique, dans cette transition écologique entre un monde qui a été quand même extrêmement polluant, un monde qui veut continuer à avoir son confort et son bien-être à partir d'une croissance verte, mais entre les deux, bah, on est un peu paumé, on paume des emplois. Donc évidemment, ça fait peur à ceux qui étaient tenants du premier monde. Ça ne rassure pas forcément ceux qui sont persuadés que le prochain monde vert va être très riche en emplois. Et puis le peuple auquel nous appartenons bah, s'interroge en se disant « Mais j'ai un peu peur de perdre l'ancien monde, ouais. Et est-ce que je suis sûr d'y gagner dans le nouveau monde vert ?» Voilà, ouais, ouais. Je résume.
Allez, bah, tiens, 0826 300 300, c'est Jean-Paul de Draguignan qui est avec nous, qui peut réagir sur l'actualité. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs.
Bon, qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, dans l'actualité ce matin, mon cher Jean-Paul ?
Eh bien, écoutez, ce qui me fait réagir, c'est que je suis heureux de voir que les maires, ont voté pour que les élections et les régionales aient lieu.
Oui.
Voilà. Ça me paraît très important pour que respire un peu la démocratie dans ce pays. Et j'aurais mal vécu que le gouvernement reporte ses élections au mois de septembre. Ça laisse cette semaine de décalage va peut-être laisser aux maires quelques jours de plus pour l'organisation. Je vois pas ça de mauvais œil, mais pour moi il était important. Et je pense que pour nombre de Français, qu'elles aient lieu.
Ouais.
Voilà, avec toutes les France qui a de nécessaire pour se protéger. Et ça rejoint en plus, si vous voulez. Pour moi, ces élections sont importantes et j'espère qu'un grand nombre de Français iront se déplacer pour voter. Parce que ça rejoint un peu l'édito de Mme Lévy qui nous parlait de cette école
à Albertville.
Oui. À Albertville. Et nombre de choses qui sont pour moi actuellement et pour quelque temps certainement plus importantes que le projet de Mme Pompili, qui peut-être ne verra pas le jour ou sera complètement modifié selon justement les élections à venir et si elle sera en capacité de gouverner ou pas.
Ouais.
Parce que, voilà, il y a ce domaine-là aussi, et je pense que nombre de Français sont là de tout ce qu'on nous fait gober en ce moment dans cette société, et il est temps de reprendre une autre respiration et un autre souffle dans ce pays, voilà, ouais. Qui soit plus sain, qui soit plus centré sur les valeurs, même si je conçois tout à fait que l'écologie soit une valeur, on n'est pas nécessairement obligé d'en passer par les projets de Mme Pompili. Voilà, il y a peut-être aussi d'autres solutions.
Oui, d'autant que au niveau mondial, hein, si l'on regarde la part de la France dans l'effet de serre, on est à 0,9% nous, la France.
Hein.
Donc, alors certes, on y contribue, hein, bien sûr. Donc, il faut faire des efforts nous-mêmes, mais de là à prendre en fait des décisions qui peuvent être trop radicales et mettre peut-être en danger l'emploi, l'équilibre de la société.
Il y a des millions de personnes en difficulté dans ce pays. Il faut
bien
pas
sûr,
l'oublier.
Bien sûr.
Et tout ça va créer des difficultés supplémentaires. Ce ne sont pas les quelques emplois qui seront créés dans ce domaine qui éventuellement vont permettre à une grande majorité de Français de sortir de la souffrance dans laquelle ils sont.
Ouais.
Et mais ça, apparemment, ce gouvernement, il n'en a cure. Voilà.
Ouais, ouais.
Donc, moi, je trouve ça très dommageable. Et c'est pour ça que je pense que les élections à venir et l'élection présidentielle seront très importantes pour l'avenir de ce pays qui est sur une pente glissante, à mon avis, très dangereuse,
ouais,
à,
ouais,
tous les niveaux,
ouais,
à tous les niveaux.
Merci Jean-Paul de votre témoignage, de votre appel au 0826 300 300, parlons vrai sur Sud Radio, on essaie de se dire les choses. Ce que dit Jean-Paul, il dit oui, il y a urgence sur beaucoup, beaucoup de sujets, bien sûr, du moment, quoi. Et sans parler uniquement du Covid, quoi, Alexis Poulain.
Bien sûr, bah, une des urgences clés, et je trouve qu'on en est loin du débat présidentiel, ça va être l'emploi. Comment éviter le mur économique et social avec les faillites, avec qui sont simplement déprogrammées, reculées dans le temps avec les aides d'État. Mais si le rebond de croissance n'a pas lieu, il est appelé de ses voeux par Bercy, par Bruno Le Maire et beaucoup d'autres. Mais on voit, il y avait un témoignage d'ailleurs ici à Sud d'un restaurateur qui disait à mon âge, je vais pas recommencer à zéro.
C'est vrai.
Et donc combien, comme lui, vont dire, bon bah cette fois-ci je jette l'éponge. Combien de plans sociaux dans les grands groupes qui sont en préparation. Alors, derrière les discours de la réindustrialisation en France, il y a des réalités. Sanofi, qui va ouvrir une nouvelle usine, elle l'ouvre à Singapour. Elle n'ouvre pas en France. Donc ça commence mal, la réindustrialisation. Ouais. Et puis après, on a vu Emmanuel Macron, on a vu Thierry Breton venir regarder les usines où on mettait en flacon hein, les sérums. On ne produit toujours pas. C'est-à-dire qu'on produit des flacons. Hein, c'est de l'enflaconnage, donc c'est bon, un petit début. Et puis la France ne va pas devenir la concurrente de l'Inde, du Bangladesh ou des pays où on a justement délocalisé parce que c'était moins cher et parce que c'est des opérations à faible valeur ajoutée. Donc c'est pas un avenir non plus souhaitable devenir un centre industriel de voilà pour là où finalement on a choisi de se spécialiser dans autre chose. Ouais. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui concernent pas seulement les politiques, qui concernent aussi tous les Français que nous sommes sur la façon dont on consomme, sur la façon aussi dont on est plus ou moins respectueux de l'environnement dans notre pratique quotidienne.
Bien sûr, dans notre environnement. Un sujet, dernière question avant de passer à notre invité dans 5 minutes maintenant, Florence Belkacem, Coccinelle, sur dialogue avec les disparus, hein, donc avec les morts, etc. Est-ce qu'il faut croire aux signes? Il y a certains indices qui sont laissés, là en l'occurrence c'est la coccinelle. Dernier sujet avec vous, Éric Revel, Veolia, Suez, donc cet accord là cette fois-ci qui est bien scellé, est-ce que ça va avoir des conséquences directes aussi pour nous simples consommateurs? Ça va devenir un puissant à l'échelle de la planète. Et pour nous, est-ce que ça va changer quelque chose, notamment le prix de l'eau ou pas?
Oui, oui. Alors, je ne suis pas dans les secrets industriels, non. Mais sur le papier, à mon avis, ça ne changera rien pour une raison très simple. C'est que le rachat de Suez par Veolia, par le groupe d'Antoine Frérot, en fait, laisse intactes les activités de Suez en France. Mmh. C'est-à-dire que Suez... au niveau français, restera ce qu'il a été, c'est-à-dire un géant du traitement de l'eau face à d'autres concurrents comme le groupe Veolia qui le rachète en partie ou face à la SOR qui fait aussi du traitement des eaux, une ancienne filiale du groupe Bouygues. Donc sur le marché français, comme les acteurs restent en place et comme évidemment les autorités de concurrence veillent, c'est leur rôle et on peut le croire, à une libre concurrence en termes de prix du mètre cube de retraitement de l'eau, on ne peut pas s'attendre, non, pas du tout, à une envolée du prix de l'eau en France, puisque Suez reste un acteur majeur en France. Mmh. En revanche, à l'international, il va y avoir un chamboulement colossal. Mais comme je le disais tout à l'heure, et pour reprendre la réflexion d'Alexis, c'est que bien sûr, on peut craindre pour l'emploi, bien sûr, on peut avoir des questionnements sur le niveau de recherche et de développement et l'avenir du nouveau Suez. Oui, tout ça est vrai. Mais en même temps, on ne peut pas à la fois reconnaître que depuis des années, on a abandonné dans ce pays des secteurs entiers de l'industrie et ne pas se réjouir quand on voit sur le papier naître un géant de la transformation écologique comme l'est Veolia au niveau mondial. Oui, c'est-à-dire que Veolia devient le champion du monde de la transformation écologique et notamment du retraitement des eaux. Donc réjouissons-nous quand même de ce fleuron français, parce qu'on pleure suffisamment quand on voit des pans entiers de notre industrie disparaître pour ne pas se réjouir lorsqu'on voit, encore une fois, sur le papier... naître après 8 mois d'une bataille féroce, ce nouveau Veolia.
Ouais. Merci beaucoup donc à vous, Éric Revel, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain et à Jean-Paul notamment qui a réagi au 0826 300 300. Est-ce que vous voulez réagir vous aussi au 0826 300 300? Vous pouvez avoir la parole sur est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des signes? Vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, des proches, des amis et vous voyez un certain nombre de signes autour de vous, vous dites je suis accompagné par maman, par mon cousin, par Jean-Paul, par Claude, par Dominique, etc., avec certains indices.
On parle souvent de plumes blanches.
Oui, est-ce que vous êtes concerné? Si c'est le cas, vous nous appelez 0826 300 300, on a envie de vous entendre, parce qu'on va l'évoquer dans un instant avec notre invité.
Notre invité est Florence Belkacem, qui elle voit des coccinelles, c'est le titre de ce très joli livre, très émouvant, aux éditions du Cherche Midi. Elle sera avec nous dans un instant, il est 9h21.